France Culture.
Il revient tous les ans, mais cette année, le monde a changé et vite. Le Forum de Davos attire peut-être plus que jamais tous les regards ouverts lundi, soit le jour même de l'investiture de Donald Trump. Incertitude et tension règnent sur l'avenir du commerce international. Promesses de barrières douanières, décrochage européen, arrivée de l'intelligence artificielle qui est du reste le thème de cette 55e édition du Forum. Tout cela fera sans nul doute bruisser les couloirs de la désormais légendaire station de ski suisse. Mais ces rumeurs ne sont pas nécessairement celles de l'inquiétude. Selon un sondage mené auprès de 4701 dirigeants d'entreprises et paru ce lundi, 58% d'entre eux se disent très confiants vis-à-vis de l'évolution de l'économie mondiale contre 38% en 2023. Reste à savoir pourquoi, ce qui nous racontera sans doute ce qui se joue vraiment à Davos, comment comprendre l'importance et le rôle de ce forum qui se déroule en parallèle, on peut le dire, des instances internationales chargées de réguler le comportement des grandes entreprises. Est-ce vraiment là que ces dernières entendent imposer leurs propres normes ? Ou bien faut-il comprendre que les grandes entreprises ont renoncé à négocier au sein des circuits officiels, profitant des bouleversements des règles du jeu du commerce mondial pour envisager différemment leur pouvoir et leur influence ? Que nous raconte Davos de la façon dont la diplomatie est progressivement devenue une véritable arme économique pour les multinationales ? On part donc sur la piste des grands de ce monde, là où dirigeants des nations et ceux des entreprises se parlent d'égal à égal, du moins c'est ce qu'on pourrait croire, dans cette émission programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Ludovic Auger. Une table ronde autour de laquelle se trouve aujourd'hui Sébastien Jean, professeur d'économie au Conservatoire National des Arts et Métiers et directeur associé de l'initiative géoéconomique aux finances de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Avec nous également Marie Louis, maîtresse de conférences en sciences politiques, actuellement directrice adjointe du centre Marc Bloch à Berlin, spécialiste des organisations internationales et puis je crois également qu'on vous doit un certain nombre d'ouvrages et puis aussi un des travaux destinés à soutenir votre HDR, mais vous nous en parlerez plus en détail. Et puis enfin avec nous, Olivier Petitjean, vous êtes journaliste et cofondateur de l'Observatoire des multinationales et co-directeur avec Yvan Duroy d'un ouvrage qui lui va paraître le 12 février prochain et intitulé « Multinationales, une histoire du monde contemporain » et ça sera à la découverte, une affaire à suivre. Donc bonjour et bienvenue à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Pour bien comprendre les principes d'un forum mondial comme celui qui se tient actuellement à Davos et ce qui se joue en 2025 comme en 1971 lors de sa fondation, rien de tel que d'entendre ses participants. En l'occurrence, c'était en 2003. Après tout, rien ne change. C'était Louis Schweitzer, alors PDG de Renault, Jean-Louis Gergorin, vice-président de ADS, et François Loos, qui était alors le ministre délégué au commerce extérieur en France, qui avait répondu aux questions de Jean-Paul Chappé pour France 2.
Embouteillage à Davos. Un millier de grands patrons s'y donnent rendez-vous chaque année. C'est le club le plus sélect de la planète. Le ticket d'entrée coûte 27 500 euros par personne. 180 000 francs, sans compter l'hébergement. Un prix que personne ici ne trouve exorbitant.
C'est quand même moins loin que l'ensemble des pays qu'il faudrait visiter pour avoir la même vision du monde que celle qu'on acquiert dans cette station hivernale.
Donc en billet d'avion, ça les vaut ?
Largement.
Pour une entreprise, ça les vaut tout à fait. C'est beaucoup plus efficace que des consultants qu'on paye très cher, des études, etc.
Officiellement, le Forum est une fondation à but non lucratif. Mais tout est fait ici pour permettre à ses membres de faire des affaires et de flatter leur ego.
Plutôt que de lire les journaux, les gens aiment bien ce qu'un collègue leur raconte. Et quand on peut dire « j'ai entendu tel puissant, soit économique, soit tel puissant politique, dire ça et ça », quand c'est nouveau, ça circule assez vite dans les milieux économiques.
Olivier Petitjean, le 55e Forum économique mondial a ouvert ses portes, on le disait lundi soir. Il a notamment été marqué par l'intervention de Donald Trump, qui avait été annoncée par les organisateurs le 14 janvier dernier. On dialoguait avec lui Patrick Pouyanné, PDG du géant pétrolier Total Energy, Ana Botín, la présidente du groupe bancaire espagnol Banco Santander, Stephen Schwarzman, PDG du fonds d'investissement américain Blackstone, et Brian Monihan, le PDG de Bank of America. Ça fait pas mal de monde. Est-ce que c'est cela le but de Davos, permettre le dialogue entre patrons d'entreprise et dirigeants politiques?
Je dirais que le but de Davos, c'est effectivement de créer une culture commune, un espace de dialogue commun entre justement les grands de ce monde. Ça a été, comme vous l'avez dit, ça a été lancé dans les années 70. À l'époque, l'idée, c'était vraiment d'importer en Europe les cultures, les nouvelles cultures managériales américaines. Et très vite, c'est devenu on appelait ça le Forum européen du management, si je me trompe pas.
Ça a changé de nom.
Mais très vite, dans les années 80, c'est devenu le Forum économique mondial, donc en gagnant en ambition, avec cette mise en scène, effectivement, comme le lieu où les gens se retrouvent, le lieu où se décide l'avenir du monde.
On parle donc de dirigeants d'entreprise, Sébastien Jean, mais pas n'importe lesquels d'entreprise. Est-ce qu'on sait quel est le profil type d'une entreprise membre de ce forum et qui donc, de fait, finance aussi ce forum? Quel type de structure on y retrouve?
Presque par définition, ce sont des multinationales et des grosses multinationales, parce que il faut avoir la taille à la fois pour avoir la visibilité nécessaire pour compter aux yeux des organisateurs, pour avoir l'ampleur nécessaire pour que justement cet investissement vaille le coup. Maintenant, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que la mondialisation telle qu'on la connaît, c'est beaucoup le fait de multinationales. Par exemple, en France, 90%, plus de 90% de nos exportations sont réalisées par nos multinationales. Donc en fait, elles sont très peu nombreuses, c'est en gros 1% des entreprises. Elles emploient à peu près la moitié des salariés du secteur marchand, mais en revanche, elles font 90% des exportations. Et par définition, l'investissement à l'étranger, lui, ce ne sont que des multinationales. Donc, en particulier, la mondialisation telle qu'elle s'est développée depuis les années 1980, c'est vraiment les multinationales en sont le support et la matérialisation la plus importante.
Et on va voir aussi que ce poids que vous évoquez, Sébastien Jean, va aussi jouer dans le poids que pèsent ces structures-là, notamment dans les négociations. Ça fait partie des arguments qu'elles peuvent mobiliser pour faire entendre leurs arguments. Cela dit, vous avez lâché le mot multinationale. Olivier Petitjean, c'est aussi le mot que vous employez littéralement dans le titre de votre ouvrage. C'est l'occasion de faire un tout petit point de vocabulaire et qui va être bien utile pour la suite de l'émission aussi. Qu'entend-on par multinationale? Est-ce qu'il faut bien le distinguer de grandes entreprises, par exemple?
C'est compliqué. Effectivement, le mot multinationale émerge vraiment dans les années 70. À partir du moment des années 70 qu'on commence à parler de multinationale, et souvent dans une optique critique. Donc, la création du forum de Davos dans les années 70, c'est aussi une réponse à ça, au fait qu'il y a une contestation qui est au niveau ouvrier, bien sûr, mais aussi plus largement dans la société qui monte. Et aussi une contestation des pays du tiers-monde, nouvellement décolonisés, avec notamment le Chili, toutes ces revendications de nationalisation de certaines ressources stratégiques, la montée des états pétroliers, etc. Donc c'est dans ce contexte que cet acteur multinational émerge comme un problème de géopolitique et de droit international, où il y a les premières tentatives pour réguler les multinationales. Et d'une certaine manière, Davos, c'est une réponse à ce contexte aussi. Mais l'objet, nous, on fait remonter notre histoire qu'on va publier donc prochainement à 1850, pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Il y en a qui remontent même à 1600, à la création de la Compagnie des Indes orientales britanniques ou néerlandaises, avec des bonnes raisons. Donc l'objet, acteur économique privé, opérant dans un marché mondial, s'approvisionnant en ressources naturelles, en minerais par exemple, ou en force de travail, ou en matières premières au niveau mondial et les importants dans des marchés, ça existe depuis très longtemps. Mais ça devient un vrai problème politique, disons, proprement parlé, en tant que multinationale dans les années 70.
On va revenir en détail sur ce qui se passe dans ces fameuses années 70 et comment la contestation, en tout cas une certaine critique, et puis ceux qui l'émettent vont aussi générer une réponse, une forme de réponse de la part de ces...
Si je peux juste ajouter un petit mot sur cette histoire. Même si le mot multinational est utilisé surtout depuis les années 70, en fait, c'est pas avant, il y a déjà eu beaucoup de débats sur la grande entreprise. On appelait ça plutôt les trusts à l'époque parce que c'était beaucoup aux États-Unis. Et ce qui se passe aujourd'hui avec Trump, c'est un peu une répétition de cette histoire, notamment parce qu'il fait beaucoup référence au président William McKinley, qui justement est le président qui a vraiment libéré toutes les entraves à la construction de ces immenses trusts, General Electric, etc. On a des nous à l'époque on parlait des barons voleurs qui justement elle était à la base de ces trusts. On a nos nouveaux barons voleurs avec Elon Musk et autres. Donc là aussi on voit des résonances qui datent même d'avant les années 70 aujourd'hui.
On va voir effectivement que la régulation de la concurrence notamment, et puis vous parliez de trust, c'est vrai, de la taille finalement aussi qui joue sur le poids non seulement économique mais aussi diplomatique, décisionnel de ces structures-là qui investissent de fait à l'étranger en dehors des frontières où elles sont implantées. Marick Louis, la mise en scène de ce dialogue au sein de Davos, elle est tout de même intéressante parce qu'elle donne le sentiment qu'il y a deux acteurs qui se parlent quasiment d'égal à égal, c'est ce qu'on disait, ou en tout cas quasiment face à face, c'est un jeu de questions-réponses quasiment direct, sans intermédiaire. On a l'impression qu'ils sont mis sur le même plan, mais surtout sur le même plan politique. Et ça, c'est extrêmement important. On peut dire que Davos est l'illustration de ce que sont aujourd'hui les multinationales. Ça permet aussi de les définir, des acteurs politiques actifs.
Tout à fait. Et Davos renverse, en fait, d'une certaine manière, les codes de la diplomatie économique telle qu'elle s'est historiquement construite, où c'était plutôt quand même les États, à travers des grandes conférences économiques internationales ou des organisations internationales spécialisées, mais aussi l'ONU, qui étaient les puissances invitantes et au sein desquelles les entreprises, par le biais de leurs représentantes et pas forcément directement, tentaient d'influencer sur l'agenda. Là, on renverse complètement les codes. Ce sont vraiment les entreprises qui organisent cet événement, qui invitent, qui ont la main sur l'agenda et qui sont aussi en position d'écrire vraiment le narratif de la gouvernance économique mondiale et qui prennent en charge aussi, et ça c'est une concurrence directe livrée aux États, qui prennent en charge aussi une certaine définition de l'intérêt général en se mettant sur le terrain du changement climatique, de l'innovation autour de l'intelligence artificielle et de tout un tas d'autres sujets. Donc oui, là on a un forum qui casse les codes et qui d'ailleurs n'est pas forcément apprécié de tous, y compris dans le monde des entreprises et de ceux qui les représentent.
Olivier Petitjean, en lisant votre ouvrage, on apprend un élément assez intéressant, qu'en tout cas je n'étais pas connu de mes services, c'est qu'au moment où justement est fondé ce fameux forum de Davos, qui vous l'avez dit, ne s'appelait pas comme ça, mais s'appelait Symposium Européen du Management, puis en 86 devient de fait le Forum Économique Mondial, dès que c'est fondé, il y a un très fort soutien de la Commission Européenne, notamment. Dès le départ, il y a cette ambition pour les pays européens de comprendre les raisons d'un certain retard économique, notamment vis-à-vis des États-Unis. Là aussi, il y a une forme d'histoire qui se répète.
Tout à fait. Donc effectivement, dans les années 60, il y a un livre très célèbre qui s'est beaucoup vendu de Jean-Jacques Salon-Schreiber qui s'appelait Le défi américain, qui déjà alertait sur l'avance technologique des entreprises américaines, sur le besoin de l'Europe de s'unir pour résister, pas être marginalisée. Et qui est le fondateur du Forum de Davos, donc Klaus Schwab, a directement cité ce livre comme une de ses inspirations. Et initialement, effectivement, c'était une entreprise européenne avec l'idée de mettre à niveau les entreprises européennes et avec l'encouragement à l'époque de la Commission qui était beaucoup moins puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais très vite, au début c'était un forum entre responsables économiques, mais très très rapidement, en fait, dès 1974, je pense, ils ont invité des politiques parce qu'il y avait un contexte qui s'est ajouté à ça, qui était la crise pétrolière, qui a aussi mis beaucoup de sujets rendus plus urgents. Et donc c'est devenu très vite un forum économico-politique.
Et c'est vrai qu'il faut le préciser, c'est un ingénieur allemand, Klaus Schwab, qui donne l'impulsion, on va dire, de ce mouvement-là. Bon, donc lui-même vient clairement de l'industrie du privé. Il a travaillé pour notamment au sein de la Fédération professionnelle allemande de fabricants de machines et d'équipements. Donc voilà, on comprend aussi que l'initiative part de là. Sébastien Jean, on le voyait, les problèmes qui étaient peut-être ceux qui s'imposaient au moment de la fondation de ce forum sont peu ou prou toujours les mêmes aujourd'hui. Mais pour bien comprendre quels sont les objets de discussion, dans quelle mesure la dimension de plus en plus mondiale de ce forum mondial écrase peut-être aussi la dimension européenne qui avait au départ, clairement, on se réunit pas à Davos pour parler du décrochage européen tel que Mario Draghi l'a identifié en septembre dernier.
C'est vrai, pour nous Européens, de plus en plus la dimension commerce extérieur, investissement à l'étranger, elle se lie beaucoup en fonction de l'extra-européen. Parce que finalement, le marché unique de plus en plus devient juste un prolongement du marché domestique national. Donc les enjeux économiques, ils sont de plus en plus mondiaux. Maintenant, au fur et à mesure que cette mondialisation s'est approfondie, que au fond il y a eu une augmentation de l'intensité des exportations, du montant des exportations qui a augmenté plus rapidement que le revenu au niveau mondial, surtout entre le début des années 90 et la crise financière 2008-2009. Mais en fait, l'investissement direct à l'étranger a évolué encore plus vite. Et mesuré en proportion du revenu mondial, le stock d'investissement direct à l'étranger, il a triplé entre 1990 et 2008, en gros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que ce sont des multinationales qui sont à l'œuvre, dans le sens vraiment, alors là je reviens à la définition économique, c'est-à-dire une entreprise est multinationale si elle a des établissements dans plusieurs pays. D'accord? On peut exporter en ayant juste des établissements dans un seul pays, là on n'est pas une multinationale, et on devient une multinationale si on investit à l'étranger. Et par définition, cette expansion au travers de l'investissement direct, c'est une expansion des multinationales, c'est-à-dire d'entreprises qui organise, qui coordonne un processus de production qui se déroule dans plusieurs pays. Et puis ce processus de production, au fur et à mesure, il se déroule dans un nombre de pays de plus en plus grand. Et donc, il y a des enjeux, bien sûr, de communication, d'information, on l'a entendu au travers de différents témoignages. Puis après, il y a aussi, de plus en plus, des enjeux qui se mettent en place, de négociations entre l'entreprise et les pays d'accueil. Et notamment pour les pays en développement, ça devient un enjeu important d'arriver à attirer des entreprises, souvent d'une façon problématique, parce qu'à la fois elles peuvent en espérer un vrai bénéfice, mais en même temps elles sont souvent dans une position de relative faiblesse en termes de négociation, donc elles ont pu se voir extorquer, enfin en tout cas amener à octroyer des avantages importants aux multinationales. Donc tout ça, ça fait évoluer le champ, ce n'est plus d'ailleurs seulement l'apanage des pays en développement, on voit bien que maintenant, du coup, ça devient un enjeu pour tous les pays d'essayer aussi de non seulement de partager l'information, mais aussi de convaincre des investisseurs ou des entreprises multinationales de venir avoir une implantation, une activité importante chez eux. Voilà. Donc, c'est vraiment la logique de forum, et je crois qu'il faudrait y revenir, mais il faut vraiment pas confondre ça avec les institutions internationales qui, pour le coup, ont une vocation différente.
Qui ont une vocation et une légitimité aussi tout à fait différente. On l'a compris, Marie-Louise Davos, donc c'est le lieu où s'incarne une certaine évolution des multinationales en tant qu'acteurs diplomatiques, politiques de l'économie. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi finalement ces multinationales ont besoin de s'afficher comme telles. On l'a dit dans les années 70-80, puisque c'est à cette époque-là qu'émerge notamment Davos dans sa première forme, on va dire. Pourquoi est-ce à ce moment-là qu'émerge l'idée que la diplomatie est aussi une arme économique importante pour les grandes entreprises? On a évoqué l'idée de critique notamment, l'idée de se défendre face à elles. D'où viennent ces critiques-là, Marie-Louise?
La première grosse critique, et qui correspond à ce moment où justement les multinationales vont devenir vraiment un objet politique, un acteur politique à part entière, c'est donc dans les années 70, où à la faveur de la guerre froide, puisqu'il faut quand même pas oublier que les multinationales à l'époque, c'est aussi le symbole du bloc occidental, mais c'est aussi dans une période de post, on est encore dans les mouvements de décolonisation et donc de cette idée du nouvel ordre économique international qui est porté par des pays non alignés qui justement dénoncent les interférences dans un certain pillage des ressources pour certains, dans la création d'instabilité politique pour d'autres États. On se rappelle du Chili, par exemple. Et donc, on va avoir ces initiatives, cette volonté de reprendre un peu le contrôle. Les multinationales vont se voir attaquer autour de cette idée qu'il va falloir les réglementer. Cette réglementation, elle va prendre l'idée, dans les années 70, d'un code pour les entreprises transnationales qui émaneraient de l'ONU. Et donc, très rapidement, les entreprises multinationales, par le biais de leurs représentantes, et notamment, on va voir entrer en scène des organisations comme la Chambre de commerce internationale, comme l'Organisation internationale des employeurs, mais comme aussi le BIAC à l'OCDE, aujourd'hui le Business at OECD, qui comprennent bien les dangers de ces attaques. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des scandales très forts autour de Nestlé, par exemple, donc une mobilisation de l'opinion publique internationale. Et donc, elles vont essayer de réagir en proposant, elles-mêmes en étant dans une logique assez constructive et pragmatique, en proposant de participer à la co-construction de normes, principes directeurs de l'OCDE, déclaration tripartite au sein de l'Organisation internationale du travail pour une déclaration de politique sociale des multinationales, pour essayer d'anticiper un petit peu ces régulations, de ne pas en être juste la cible, mais d'être coproductrice de normes avec les organisations internationales. Et en parallèle, on a le Forum de Davos qui, lui, est cette initiative autonome et qui n'a pas une vocation véritablement normative au sens où on n'est pas dans l'écriture de traités. Alors oui, il y a des déclarations et des communiqués, mais là, on est plus dans un espace de socialisation et de d'une certaine manière de démonstration de l'unité du business aussi, par rapport à ces initiatives des États.
Mais on l'a bien compris, on n'y définit pas les normes, en tout cas pas de façon très contrainte et forcée, ou en tout cas pas de façon officielle et formelle, parce que c'est plus une façon de se rendre compte de ce qui fait l'unité ou non, justement, et les intérêts communs des différents dirigeants, que ce soit d'entreprises ou de nations, tout simplement. Olivier Petitjean et Marie-Claude l'a dit, en mentionnant notamment le Chili, ce sont des années d'émergence de cette critique-là. Vous le mentionnez d'ailleurs, le 4 décembre 1972, à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Salvador Allende, qui était alors président chilien en exercice, déclare « Nous sommes face à un véritable conflit entre les multinationales et les États. Ceux-ci ne sont plus maîtres de leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires à cause des multinationales qui ne dépendent d'aucun État. » Clairement, la critique, elle émerge aussi de la société civile. Il y a aussi un mouvement politique face à ces multinationales.
Tout à fait, elle émerge de plusieurs côtés à la fois. Elle émerge du côté politique, notamment dans les États du Sud. Et les déclarations de Salvador Allende, évidemment, elles prennent d'autant plus de relief que quelques mois plus tard, il y a un coup d'État où des grandes entreprises américaines qu'il a nationalisées, notamment AT&T, sont accusées d'avoir activement contribué. Donc ça vient des politiques, ça vient de l'Église, donc on l'oublie, mais c'est une période aussi où il y a la théologie de la libération et des documents des Églises qui sont très qui mettent l'accent sur cette question des multinationales. Ça vient évidemment des syndicats, c'est aussi une période où les syndicats, notamment les syndicats, parce qu'ils sortent de décennies où ils étaient plutôt avec un rapport de force favorable, y compris aux États-Unis. Donc les syndicats de l'automobile, ils ont réussi à négocier des augmentations de salaire et ils ont peur que justement avec un mouvement de délocalisation qui commence pour des raisons aussi à ce moment-là très matérielles, parce qu'on invente le conteneur, etc. Donc ça devient possible d'internationaliser le commerce. Ils sont sensibles au risque de moins 10 ans social dans d'autres pays. Et ça vient de la société civile. Là, on voit émerger les ONG effectivement avec une campagne contre Nestlé. C'est aussi un contexte pour finir, mais tout ça va ensemble de lutte contre l'apartheid, donc les campagnes contre l'apartheid en Afrique du Sud, la participation des grandes entreprises françaises, américaines à ces politiques racistes aussi sur le devant de la scène avec des campagnes. Donc c'est vraiment un compte. Bon, ensuite les années 70, une décennie.
C'est un contexte. Effectivement.
Voilà, c'est un moment d'ébullition où les milieux d'affaires commencent à réfléchir à quelle est leur réponse. Et leur réponse, c'est aussi d'intégrer en partie ces critiques. C'est pas juste de dire non, on continue comme avant. C'est de dire voilà, on a la réponse. Et c'est là que s'invente, pour mentionner, parce que c'est vraiment fondamental pour Davos, et ensuite, pardon, je parle un peu trop, c'est cette idée de ce qu'on appelle en anglais le multi-stakeholderism, donc le multi-partenarial, donc cette idée qu'au lieu de gouverner un peu de manière traditionnelle, il y a l'État, la puissance publique qui décide,
très
tout le monde applique.
Mmh.
C'est maintenant, on met tout le monde, tous les acteurs sur la table. En théorie, c'est tout le monde. Donc, c'est pas seulement les entreprises, les États, mais c'est aussi les églises, les syndicats, les ONG, les leaders culturels, etc. Et on retrouve encore un peu de ça à Davos. Ils invitent des leaders d'opinion, des influenceurs, etc., qui se mettent sur la table. Mais concrètement, en tout cas, de mon point de vue et de ce que pensent pas mal de journalistes, en tout cas pour parler pour ma profession, qui ont étudié le sujet, cette mécanisme, de fait, elle est basée sur le consensus, mais elle écarte un peu les voix les plus critiques. Donc c'est plutôt un effet de cooptation de certaines voix critiques acceptables. Donc je pense qu'il y a quelques années, ils ont invité Greta Thunberg pour parler du climat, etc. Mais on reste dans le cadre de la construction de consensus, qui est vraiment la base de Davos, je pense.
Sébastien Jean, pour qu'on comprenne bien peut-être la subtilité aussi de ce contexte-là dans lequel les entreprises commencent à vouloir aussi avoir une voix au sein des instances, pour le coup, officielles, qui ne sont pas à confondre avec Davos, dans quelle mesure c'est une réaction peut-être de crainte aussi, dans quelle mesure les entreprises ont vraiment eu peur, en fait, à ce moment-là, face à ces critiques-là? Est-ce qu'il s'agissait vraiment d'un mouvement de reconsolidation, on va dire, des intérêts communs?
Je crois que c'est avant tout un mouvement, une évolution qui a transformé la nature des enjeux pour les entreprises vis-à-vis des États. C'est-à-dire que à partir du moment où les entreprises devenaient fortement multinationales, avaient une activité à l'étranger beaucoup plus importante, une activité beaucoup plus dispersée entre différents pays, elles n'étaient plus seulement concernées par des enjeux de droits de douane, de compétition d'exportation, elles étaient concernées par les enjeux de régulation au sein des pays dans lesquels elles intervenaient. Et je crois que il y a une prise de conscience de ces enjeux qui les a amenés à modifier aussi la façon dont elles font, dont elles, disons, leur rapport avec les États, la façon dont elles essaient de les influencer, de faire du lobbying. Un élément symptomatique, par exemple, ce sont les négociations au sein du GATT, donc ce qui était le prédécesseur de l'Organisation mondiale du commerce. Le dernier cycle de négociations qui a été amorcé en 1986 à Punta del Este en Uruguay, on a vu une présence beaucoup plus forte que précédemment de multinationales, notamment dans la délégation américaine, avec des entreprises comme American Express ou Pfizer, qui ont mis les droits de propriété intellectuelle au menu de l'agenda commercial. Ça, c'était complètement nouveau. Avant, on se préoccupait essentiellement de taxes, enfin de droits de douane aux importations. Des fois, il y avait quelques autres règles aussi, hein, mais c'était pas seulement ça, mais c'était principalement lié vraiment à l'activité d'exportation. Là, les droits de propriété intellectuelle, il s'agit des régulations internes, et c'est important. Et quand on regarde, par exemple, quand on lit que le ressenti, par exemple, de négociateurs indiens par rapport à cet épisode, ils disent qu'ils ont été non seulement pris très surpris de finalement cette évolution, mais qu'en plus, après, en Inde, ça a été extrêmement mal reçu comme une immixtion dans les affaires internes indiennes. Donc, c'est assez représentatif, je crois, de cette évolution. Et il faut ajouter aussi que il y a eu aussi une évolution du point de vue américain, par exemple, parce que autant dans les années 50, hein, on se rappelle bien que de cette déclaration du PDG de General Motors de l'époque, ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis. Et à partir des années 70, c'est devenu de moins en moins vrai parce que justement la nature multinationale de ces entreprises a éloigné leurs intérêts du territoire américain.
Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de nous raconter, de nous expliquer, Sébastien Jean, c'est qu'on comprend qu'il y a une forme d'entrisme finalement. Il y a une forme de stratégie qui consiste à occuper les bancs de ces assemblées et de ces instances qui sont créées pour la plupart au début du XXe siècle. C'est notamment le cas de l'OIT qui est créé en 1919. Marie-Louis, on a bien compris le pourquoi. On a compris qu'il y avait des critiques qui avaient commencé à émerger, une façon de réfléchir à comment on pouvait mettre tout le monde autour de la table en fonction des différentes institutions. On a commencé à aborder avec Sébastien Jean le comment, finalement, en faisant d'une forme de lobbying au sein de ces institutions-là. Est-ce que, finalement, il n'y a pas cette idée-là de se dire on a ouvert la possibilité, on a ouvert la porte, finalement, aussi au monde de l'entreprise dans ces institutions-là? Est-ce que ces institutions étaient suffisamment armées pour faire face à ce lobbying-là? Est-ce qu'elles s'attendaient à ce qu'il y ait une structuration à ce point des intérêts des entreprises?
Il y a dès le début du XXe siècle l'idée que les règles qui seront élaborées par les États auront besoin de l'assentiment, ou en tout cas, sinon de l'assentiment, auront besoin pour être mises en œuvre d'une participation des acteurs privés. En fait, dès 1919, lorsqu'est créée l'Organisation internationale du travail, il est inenvisageable de ne pas inclure les organisations d'employeurs dans cette architecture. Donc ça, c'est le premier point. L'OIT, elle est assez emblématique parce que pour le coup, elle met vraiment sur un pied d'égalité, quasi pied d'égalité, les organisations patronales, syndicales et les États pour justement fabriquer ces normes internationales du travail. Et puis, du côté des autres organisations, alors Société des Nations puis ONU, ça va être plutôt la construction progressive d'une légitimité. Il faut savoir qu'au début, les entreprises ne sont pas forcément persuadées de l'intérêt qu'elles ont à participer à ces grandes conférences. Il y a quand même un rapport de méfiance avec les États. Et puis, c'est vraiment à partir de 1945 que là, la Chambre de commerce internationale, qui elle existe aussi depuis 1919, va prendre véritablement ce rôle. Ça va être une des toutes premières organisations qui va bénéficier d'un statut consultatif au sein du Conseil économique et social. On dirait même qu'elle a quasiment écrit, d'une certaine manière, ce fameux statut consultatif qui aujourd'hui est octroyé aux ONG. Et donc, à partir de là, on change vraiment de registre. Il y a cette idée que la méfiance est de mise, mais que les entreprises doivent être vraiment des parties prenantes, en fait, du multilatéralisme onusien.
C'est intéressant, cette idée de méfiance et puis de travail sur la légitimité aussi, parce que là, on se retrouve face à une forme de paradoxe aussi, Marie-Louis, c'est que finalement la diplomatie implique d'avoir une forme de cohérence aussi en termes de stratégie, ce qu'arrivent à faire les États parce qu'ils sont représentants des citoyens de leur nation, et de fait la diplomatie est l'apanage de l'État, pas celui des entreprises. Comment cette contradiction-là elle se résout? Est-ce qu'on arrive à avoir des lignes rouges communes qui sont tracées au sein de ces institutions que vous évoquiez?
La ligne rouge, entre guillemets, elle reste que ce sont des organisations interétatiques et que donc ces organisations, comme la Chambre de commerce internationale, comme l'Organisation internationale des employeurs ou d'autres, restent avec une voix consultative. Mais par contre, il n'y a jamais eu au sein de l'ONU l'idée qu'elles étaient persona non grata. Ce qui va se mettre en place au sein de l'ONU, mais ça c'est beaucoup plus récent, on en reparlera peut-être avec le Global Compact, c'est qu'il y a par contre des entreprises, des industries qui par essence, par le secteur dans lequel elles sont, comme le tabac par exemple, ne vont plus être compatibles avec les valeurs qui sont portées et l'agenda qui est porté au niveau de l'ONU, notamment autour des objectifs du développement durable. Mais par contre, cette idée que les entreprises sont des actrices indispensables au bon fonctionnement du multilatéralisme, ça reste un principe fondateur qui n'a jamais été remis véritablement en cause. Et d'ailleurs, la Chambre de commerce internationale, en 2016, elle est devenue une observatrice permanente au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, un statut qu'elle est la seule, en tout cas en tant qu'acteur privé, à occuper. Et elle a bénéficié du soutien inconditionnel de la France. C'était notamment Laurent Fabius qui était ministère des Affaires étrangères à l'époque et qui a largement soutenu la candidature de la Chambre de commerce internationale pour ce statut privilégié, même si symbolique surtout, mais néanmoins très politique, d'observateur permanent.
Et puisque vous dites aussi dans votre habilitation à diriger des recherches qui est intitulée « Les diplomates du capitalisme », Marie-Louise, c'est que cette fragmentation peut-être aussi des intérêts, cette idée que l'intérêt d'une entreprise ne sera pas forcément celui de sa voisine, le fait qu'il est parfois difficile d'avoir une position commune et que chacun va peut-être potentiellement tenter de tirer la couverture à soi, cette fragmentation-là, elle fait partie aussi de la stratégie. C'est compliqué d'avoir autant d'adversaires, on va dire, et de concilier tous ces intérêts-là. Ça fait partie de la force aussi de la stratégie.
Oui, parce que contrairement à une image qu'on peut avoir, on peut entendre parfois l'idée de lobby des multinationales ou le business, en fait, l'intérêt des entreprises, il est pris en charge par différentes organisations, avec différents mandats, dans différentes arènes. Et ça, c'est aussi une stratégie. L'intérêt de ne pas avoir un interlocuteur unique qui parlerait au nom du business, ça peut les desservir parfois, mais c'est aussi très stratégique. Il y a un peu une division des tâches entre organisations. Certaines vont s'occuper du social, d'autres du commerce, d'autres de l'arbitrage. Et ça va aider un petit peu à diluer la pression. C'était un représentant patronal qui disait que justement, c'était très utile pour diffuser un peu la pression au sein du système onusien d'avoir différents organes où les intérêts de l'entreprise étaient représentés.
Et donc notre force de hiérarchiser, donc de choisir et de se décider. Olivier Petitjean, c'est intéressant cette nuance entre ce qui relève peut-être de la fiscalité, de la réglementation du commerce et puis des problématiques peut-être plus sociales aussi. En 1972, l'OIT inaugure un cycle de réunions tripartites qui vise à codifier le rôle des multinationales dans la politique sociale. L'OCDE, un an plus tard, tente de définir ce qu'on appelle des codes de comportement. Dans quelle mesure il s'agit là, parce qu'on parle beaucoup de façon de négocier, mais dans quelle mesure il s'agit là de mesures véritablement contraignantes?
Donc à la base, il y a effectivement ces deux initiatives au niveau de l'OIT et de l'OCDE, et dans le même temps, comme vous l'avez rappelé, au niveau de l'ONU, qui était où il y avait l'idée que ça devienne potentiellement un instrument juridiquement contraignant. Effectivement, au niveau de l'ONU, ça n'a pas abouti. Au niveau de l'OCDE et de l'OIT, ça a abouti sur deux textes, donc qui sont non contraignants, qui sont plutôt des lignes directrices. Ensuite, c'est un système qui évolue, et bon, on peut dire, il y a toute une dialectique entre ce qu'on appelle, donc ce qui est non contraignant, c'est ce qu'on appelle le droit mou, entre le droit mou et le droit dur. Mais effectivement, pour notamment les acteurs, certains acteurs même historiques qui sont actifs sur ces questions depuis les années 70, il y a un peu côté lutte inachevée pour obtenir vraiment des instruments juridiques contraignants sur les multinationales. Qui a eu un nouveau rebondissement récemment avec des nouveaux instruments, justement, dont la loi française sur le devoir de vigilance, une directive européenne sur ce sujet qui est en ce moment remise en cause.
Et tout à fait.
Donc effectivement, on reste dans le domaine de ce qu'on appelle le droit mou pour l'instant, c'est-à-dire un peu le compromis entre oui des engagements qui éventuellement pourraient être utilisés, pourraient opposables comme on dit, donc dans certains cas, mais une grande frustration et notamment un contraste très frappant que ne manque pas de rappeler les militants qui travaillent là-dessus, entre le fait qu'on a des dizaines et des dizaines de textes contraignants en matière de commerce et de droit de l'investissement et quasiment aucun texte contraignant en matière de protection des droits humains ou du climat.
On le comprend, donc l'idée pour les entreprises de plus en plus critiquées et tenues pour responsables de leurs actions au niveau mondial. Il y a vraiment cette vision globale qui compte énormément dans ces années 70, 80, puis 90, à l'époque où tout cela est tricoté finalement au sein des instances officielles. L'idée donc est de faire entendre leur voix au sein des institutions qui sont censés aussi les réguler, donc avec cette double face, on va dire, de la stratégie. Mais progressivement émerge aussi l'idée de créer leurs propres espaces de discussion, de négociation et donc potentiellement de décision. C'est tout l'enjeu du forum de Davos dont on continue de discuter aujourd'hui.
What I'm doing is my business. Take care of yours. I'm doing fine. Take care of mine. Stop lying. Cause of what you do, you don't know, you see. Yeah. Well, you're the one I saw standing there.
somebody watch me.
What I'm doing is my business de Grégory Joly sur France Culture. Entendez-vous, l'écho cherche à comprendre dans sa table ronde d'actualité pourquoi Davos a pris une telle importance. Est-ce que cela nous dit des possibilités de régulation et de contrôle des actions des multinationales? Alors on l'a compris, à la fin du XXe siècle se construit progressivement l'idée pour les multinationales que l'important c'est de prévenir plus que de guérir. Sébastien Jean, est-ce ainsi que l'on peut voir l'utilité de Davos aux yeux des entreprises, finalement détricoter ou empêcher de tricoter un peu en sous-marin, on pourrait le dire comme ça, ce qui se construit dans des instances internationales beaucoup plus formelles et officielles?
Je ne sais pas si moi je verrais un dessin unique comme ça. Je pense qu'il y a une certaine logique de foire à Davos. Tout le monde vient pour connecter, pour échanger, pour essayer de faire sa promotion, de se faire valoir auteur d'un certain nombre d'interlocuteurs, avec l'idée que c'est l'endroit utile où il y a les gens qui comptent à un niveau élevé. Voilà.
À un niveau élevé et surtout à un niveau politique élevé. Il y a quand même ce dialogue avec les dirigeants qui n'est pas négligeable.
Oui, voilà. Après ça, ça s'inscrit dans un cadre, je crois, qu'on a déjà commencé à bien décrire, qui est un cadre d'arbitrage, de négociation, de mise en concurrence aussi entre des firmes multinationales et des États. Des firmes multinationales qui cherchent à optimiser leur profit, leur activité, qui souvent vont mettre les États en concurrence. Et puis des États qui vont être dans une sorte d'arbitrage entre leurs prérogatives étatiques, leur volonté de réguler, de contrôler. Et puis, l'attractivité. Et l'un des points de rupture, je pense, qui finalement explique assez bien, enfin, illustre assez bien comment on en est venu à la situation actuelle, qui a énormément contribué à augmenter l'investissement direct à l'étranger, ça a été le développement des politiques de zone économique spéciale par la Chine. Et c'est symptomatique, je trouve, parce que c'était exactement faire vraiment un saut qualitatif dans cet arbitrage des États en disant voilà, on renonce à toute une partie de nos prérogatives de réglementation, de fiscalité.
Parce que de souveraineté, finalement.
Pour vous attirer, voilà. Et donc là, vraiment, c'était clairement aller beaucoup plus loin, en tout cas de façon plus ordonnée et que ce qui avait pu être fait dans le passé. Et ça a eu un effet très important, y compris même sur des politiques macroéconomiques. Pour finir là-dessus, au moment de la crise asiatique 1998, qui est une crise financière macroéconomique, tous les pays asiatiques dévaluent fortement. La Chine ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Principalement parce qu'elle veut envoyer un signal aux investisseurs en leur disant « L'argent que vous avez placé chez nous, il est stable, il est sûr. » Et donc, on ne veut pas dévaluer. On sait qu'on pourra en tirer un bénéfice, mais on préfère privilégier la stabilité de la monnaie et donc la stabilité de la valeur des investissements étrangers chez nous.
Donc, on voit comment les arbitrages sont désormais rendus. C'est extrêmement intéressant, Marie-Claude, de voir cette bascule potentielle qui est en train d'advenir. On a presque l'impression que finalement, on arrive à un point où les grandes multinationales ne se sentent même plus tellement représentées par les organisations patronales dont on parlait au sein des organisations, des institutions officielles. Finalement, elles peuvent s'en passer aussi, s'en défaire, parce que leurs intérêts, tout simplement, ne collent plus tellement. Est-ce que c'est ça qui se passe à ce moment-là?
Alors, ça, c'est vrai que c'est vrai au niveau national et international. Les grosses entreprises ont beaucoup moins besoin des organisations patronales que les petites et les moyennes, parce qu'elles ont justement cette capacité, elles ont suffisamment de ressources en interne pour justement déployer des ressources diplomatiques, avoir un accès direct aux dirigeants. Et c'est ça aussi qui explique la relation très ambivalente entre ces grandes organisations dont je parlais, la Chambre de commerce internationale, l'Organisation internationale des employeurs, avec les multinationales, parce qu'à la fois... elles en sont des membres importants et pour rester crédibles, ces organisations ont besoin de dire qu'elles ont aussi dans leurs membres Coca-Cola, Nestlé, Adecco et d'autres. Et en même temps, ces multinationales ont tendance parfois à les court-circuiter et c'est ce que je suggérais au début de l'émission. Il faut savoir que quand Davos s'est créé et même jusque dans les années 90, les grandes organisations patronales internationales sont très séparées. sceptique parce que ça contourne toutes les voies entre guillemets représentatives classiques. Ça remet quand même en cause leur légitimité puisqu'on a des organisations qui essaient d'imposer un agenda et qui se présentent comme étant les porte-parole au niveau mondial de l'entreprise privée. Et on a à Davos des multinationales qui se passent complètement en fait de ce type de légitimité, oui. et de cadre. Donc ça, c'est pour ça que, encore une fois, l'idée qu'on aurait un business unifié doit être vraiment nuancée. En fait, l'espace de la représentation patronale, il est beaucoup plus conflictuel que ce qu'on croit, et c'est justement dans ces fissures ou dans ces brèches qu'il faut aller regarder pour trouver aussi un petit peu des formes de contre-pouvoir, d'une certaine manière.
Donc on le comprend, un paysage assez fragmenté, en tout cas absolument pas homogène, et potentiellement donc des intérêts qui diffèrent entre les très très grosses entreprises, donc ces fameuses multinationales et les instances plus petites. Olivier Petitjean, à partir du moment où on établit ça, on peut se dire que de fait, les instances officielles peuvent paraître obsolètes pour les acteurs les plus gros en taille et en chiffre d'affaires, on va dire ça comme ça. Dans quelle mesure le fait que des forums comme celui de Davos attirent, représentent un intérêt, font un certain bruit médiatique, est aussi un signe de l'essoufflement de ces instances officielles? Et évidemment, il faut mentionner peut-être la plus connue, la plus importante de toutes, l'OMC. Dans quelle mesure Davos peut représenter une forme de concurrence quasi directe à l'OMC?
Alors, je pense qu'il faut distinguer, comme on l'a déjà fait, vraiment l'espace. Les deux sont quand même complémentaires d'une certaine manière.
Oui, mais le fait qu'il y a un report peut-être aussi, enfin un regain d'intérêt.
L'espace, on crée plus symbolique, on crée une culture commune, un consensus où il y a cet effet justement. Où les nouveaux chefs d'État nouvellement élus viennent un peu passer leur baptême du feu devant des parterres de PDG quand c'est des chefs d'État contestés, ou à l'inverse comme on l'avait avec Donald Trump, où c'est plutôt Davos qui passe son baptême du feu devant Trump. Donc ça, c'est un espace qui, une manière de faire que moi je trouve qui influence en fait de plus en plus certaines enceintes onusiennes. Et il y a une sorte de davosification, c'est peut-être un peu aller un peu loin de certaines conférences, notamment les conférences climat, maintenant peut-être les conférences plastiques, où de plus en plus cette idée, cette culture il faut se mettre autour de la table et trouver une solution ensemble, que les multinationales pétrolières en l'occurrence c'est pas le problème, elles sont le problème, elles sont aussi la solution, etc. Cet effet d'un peu de on l'observe, je pense, de plus en plus. Ça vaut, dans une certaine mesure, pour la santé aussi. L'OMC, c'est un cas un peu particulier, effectivement, où il y a vraiment... mais ça a toujours été un espace compliqué, qui avait contesté à la fois, non seulement depuis les gens qui étaient contre la libéralisation du commerce, mais aussi de la part des grands États qui voulaient garder les coups des franges quand ils voulaient, notamment les États-Unis. Donc, en ce sens, il y a des cycles où les États-Unis ont pu miser plus sur l'OMC parce que ça allait dans le sens de leurs intérêts. Dans d'autres, et maintenant que ça va moins dans le sens de leurs intérêts, ils s'en retirent, mais il y a toujours un peu cet effet. Donc voilà, je pense que c'est assez spécifique.
Sébastien Jean, il faut dire qu'on est dans un contexte spécifique. Il y a tout de même toutes ces menaces de tarifs douaniers, de tensions en termes de commerce international et mondial, et potentiellement une sorte de repli vers une forme de protectionnisme, on peut le dire. Dans quelle mesure ce contexte-là, cette conjoncture-là, elle pèse aussi sur des organisations comme l'OMC, qui sont très régulièrement accusées, enfin en tout cas qualifiées d'essoufflées, ou même d'essoufflées. Dans quelle mesure c'est une réalité effectivement pour l'OMC, et que de fait il y a une forme de report sur des formes beaucoup plus informelles?
Je crois qu'il y a une sorte de dialectique entre ce qu'on appellerait dans d'autres domaines, en politique monétaire en particulier, entre la règle et la discrétion. Dans quelle mesure est-on capable d'organiser notamment les échanges internationaux et la concurrence internationale par des règles? Les règles, elles sont nécessairement elles interviennent au travers d'accords entre les États. De façon générale, c'est l'OMC qui a été le réceptacle de ça pour une bonne partie, mais il y a d'autres institutions internationales qui peuvent être à l'œuvre. Donc là, normalement, si c'est suffisamment organisé, en tout cas, ça ordonne et ça donne un cadre dans lequel cette concurrence a lieu. Maintenant, moins ces règles sont prégnantes, moins elles sont respectées, plus il y a de place pour le côté discrétionnaire. Et là, c'est à chacun de faire valoir ses droits, finalement. Donc, aux États de jouer sur leur puissance, d'essayer de maximiser leur position de négociation, voire de pression, de limiter leur vulnérabilité. C'est toute la problématique actuelle de la sécurité économique, ou de la souveraineté, comme on l'appelle parfois aussi. Et puis, du côté des entreprises, finalement, ça laisse plus d'espace pour essayer de faire valoir ses intérêts. Et là, on retrouve la brèche que Marie-Claude mentionné tout à l'heure, entre les grandes et les petites entreprises. C'est-à-dire que, évidemment, les grandes entreprises sont mieux armées. Un exemple que je trouve extrêmement parlant, c'est lors du premier mandat de Trump, il y a eu cette guerre tarifaire entre la Chine et les États-Unis, et Apple a été complètement épargné par les droits de douane américains. Et pourquoi ? Parce que en fait, ils ont su faire valoir, ils ont réussi à convaincre Trump et son administration de les laisser tranquilles finalement. Donc eux, ils ont réussi à défendre leurs intérêts. Et en revanche, évidemment, les petites entreprises, enfin les autres entreprises, et en particulier les petites, n'ont pas réussi à avoir un régime dérogatoire spécial pour elles.
Et c'est intéressant, Sébastien Jean, parce qu'on pourrait se dire, de fait, que le retour du protectionnisme est une forme de retour aussi en force des États qui s'imposent, qui imposent leurs règles. Or, derrière les États, il y a de fait, vous venez de le dire, en général, et on parle des États-Unis là, les GAFAM, c'est les intérêts de ces grandes entreprises-là qui
absolument. Prévalent. Derrière les États, derrière une intervention plus discrétionnaire des États, il y a une invitation au clientélisme. Et c'est ça qu'on voit se manifester, et c'est ça qui est porteur quand même de menaces assez lourdes quand on voit cette espèce de ploutocratie dont on a l'impression qu'elle menace de se mettre en place avec des très grandes entreprises qui font valoir leurs intérêts propres au mépris de la règle, ou au-dessus en tout cas des intérêts nationaux, dans un contexte où justement il y a suffisamment de délitement des règles pour avoir vraiment, véritablement beaucoup de place pour ce type de stratégie.
En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a finalement un peu deux forces en présence, à la fois cette logique de forum où on le comprend dans ce que vous dites, Sébastien Jean, c'est un peu la loi du plus fort aussi qui prévaut en fonction des moyens de chacun. Et puis, il continue malgré tout d'y avoir ces institutions tout à fait officielles. Reste à savoir comment on arrive à hybrider les deux. Et de fait, en 1999, c'est à Davos que Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, va s'adresser aux entreprises.
This year. I want to challenge you to join me in taking our relationship.
Cette année, je veux vous mettre au défi de me rejoindre et de faire grandir notre relation. Je propose que vous, les dirigeants d'entreprises rassemblés à Davos, et que nous, les Nations Unies, initions un pacte commun de valeurs et de principes partagés qui donneront un visage humain au marché global. La mondialisation est un fait. Mais je crois que nous avons sous-estimé ses fragilités. Je vous appelle, individuellement et collectivement, à travers vos entreprises, à nous soutenir et à mettre en œuvre un ensemble de valeurs sur les droits humains en matière de travail et d'environnement qui sont les premiers secteurs où vous pouvez faire une vraie différence en tant que chef d'entreprise. Il y a une pression énorme de la part de différents lobbies d'abuser du marché global. Nous devons choisir entre un marché mené par des calculs et des profits court-termistes ou un marché à visage humain.
Marie-Louis, qu'est-ce qui se passe là en 1999? On a l'impression que c'est une forme de partenariat qui est proposé, qui est mis sur la table. On demande, on interpelle, on fait presque appel à la bonne volonté. De quoi ça témoigne finalement, cette nouvelle rhétorique-là ?
Alors, dans les années 90, on change d'air un petit peu, c'est-à-dire qu'avec la fin de la guerre froide, il y a cette idée qu'on va sortir de cette logique de l'affrontement qui avait très caractéristique des années 70-80 entre multinationales et États. Et donc, dès le début en fait des années 90, avant même que le Global Compact en 99 soit lancé, notamment à la faveur des conférences environnementales, il y a cette idée que disait aussi Olivier Petitjean, on va changer le narratif, les entreprises vont se présenter comme la solution et non plus le problème. On va commencer à avoir tout un discours autour des entreprises citoyennes de la mondialisation. Et donc, un rapprochement se met en place, notamment, encore une fois, entre l'ONU et la Chambre de commerce internationale. On va avoir un grand renfort de tribunes dans des grands quotidiens, le Financial Times, le New York Times, ce que certains ont appelé un pacte mutuel de non-agression, et qui va même aller jusque cette logique partenariale qui, donc, trouve son aboutissement dans le Global Compact. Dans le Global Compact, ce sont en fait des engagements que vont prendre de manière volontaire, encore une fois, les grandes entreprises, et pas que, hein, en fait, théoriquement, le Global Compact, il est ouvert à n'importe quelle organisation, mais effectivement, ce sont les multinationales qui sont en fait visées dans ce discours de Kofi Annan, où elles vont prendre des engagements en matière environnementale, en matière sociale, en matière de droits humains, en matière de lutte contre la corruption, sur la base d'un reporting volontaire. Donc, on n'est pas du tout dans des traités, on n'est pas du tout dans des obligations contraignantes, mais
au-delà même des engagements qui sont pris, ce qui est vraiment symptomatique, c'est le changement de ton et de paradigme, avec cette idée que maintenant, il y a cette logique partenariale et que les entreprises ont besoin des États, mais que les États ont aussi beaucoup besoin des entreprises s'ils veulent mener à bien ces fameux objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui objectifs du développement durable.
Partenariat qui passe, et c'est intéressant ce qu'on entendait de la part de Kofi Annan, qui passe à la fois par un appel aux entreprises, mais il le dit, je vous appelle aussi à un niveau individuel. Là, Olivier Petitjean, il faut en revenir presque à aujourd'hui aussi. Dans quelle mesure la conjoncture qu'on connaît actuellement, avec ce poids, on l'a dit, de plus on est fort, plus on pèse aussi dans les décisions de politique économique au niveau de l'État, dans quelle mesure cette interindividualisation, enfin c'est vraiment ce rapport de personne à personne, va finir par devenir une forme de norme, voire de doctrine en elle-même, finalement, que c'est là que se joueront les rapports de force, vraiment d'individu à individu.
Effectivement, je pense qu'on reste, comme ça a été dit par Sébastien Jean, dans une dialectique, mais on est notamment dans ce contexte de... On revient à ces questions des relations, du rôle de l'Europe et des relations de la vulnérabilité par rapport aux États-Unis. Voilà, on est dans un contexte où le positionnement des multinationales, y compris européennes, est décisif d'une certaine manière. Est-ce qu'elles vont jouer le jeu de... du trumpisme, disons, de voilà, donc on accepte d'aller aux États-Unis, on veut remettre en cause toutes les règles qui ont été mises en place récemment en Europe autour du Green New Deal, des règles sur la régulation du numérique, de l'intelligence artificielle, et où est-ce que on essaye de défendre un modèle européen entre guillemets. Donc c'est une des questions qui se joue entre autres à Davos. Et effectivement, on est dans un contexte où voilà, c'est plutôt l'attitude des multinationales et des dirigeants multinationales dont on a l'impression qu'ils vont décider de ça et pas du tout les politiques publiques.
Mais de fait, Sébastien Jean, c'est vrai que la question, elle peut se poser finalement du poids que pèse à la fois symboliquement mais aussi économiquement un individu. Quand on voit un Bernard Arnault assister à l'investiture de Donald Trump, finalement, il y a une forme de report aussi presque symbolique de souveraineté à ce que représentent les grands dirigeants des multinationales.
Oui, il y a un changement de rapport de force. Et au fond, la déclaration que que vous venez de retransmettre de Kofi Annan, donc de 1999, hein, je crois, elle est symbolique de ça, il me semble. C'est-à-dire du constat que les rapports de force ont changé et que finalement les États ont perdu d'une certaine façon le contrôle qu'ils avaient sur l'activité d'un certain nombre d'entreprises parce que elles sont devenues si multinationales qu'elles peuvent facilement s'échapper et donc faire valoir aux États le fait que finalement s'ils veulent trop les contraindre, elles iront voir ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui, au fond, dans les années 60-70, était beaucoup moins possible. Pourquoi ? Parce que, notamment, les sites de production dans les pays en développement, ils étaient loin d'être aussi productifs que ceux dans les... On ne pouvait pas y faire et développer des technologies de pointe. Ils étaient loin d'être aussi productifs que ceux dans les pays riches. Donc, finalement, les entreprises étaient beaucoup plus tributaires de leur port d'attache, de leur pays d'origine. Et là, au fond, moi, je sens dans cette espèce d'appel, effectivement, un peu étrange quand même, de l'ONU, qui est une organisation interétatique, l'appel à... On demande aux multinationales de bien vouloir collaborer. C'est bien, au fond, un aveu de faiblesse et un aveu que le rapport de force a changé. Et donc, aujourd'hui, on le voit encore différemment, avec des entreprises qui prennent une taille qui est de plus en plus importante, y compris à l'échelle macroéconomique, à l'échelle mondiale, et qui deviennent des acteurs à part entière de ce jeu de négociation, justement, dans lequel il y a beaucoup de place pour essayer de se faire un espace et d'avoir des décisions discrétionnaires qui profitent à son groupe ou plutôt qu'à d'autres.
Marie-Louis, je voudrais vous faire réagir sur cette dimension très importante qui est celle finalement de la gouvernance presque des entreprises aussi. Trois chercheurs de l'EM Lyon ont publié il y a quelques semaines une tribune à ce sujet dans le journal Le Monde qui disait que à partir du moment où l'actionnariat des entreprises françaises, certes cotées, devient de moins en moins français, cet actionnariat-là n'est plus français. Je crois qu'on est passé d'environ 70% d'un actionnariat français à environ 34% en moyenne. À partir de là, très difficile de se dire que vu que les actionnaires ne sont pas français, pour quelles raisons respecteraient-ils les règles et les réglementations, les cadres, on va dire, normatifs mis en place en France, alors qu'eux-mêmes ne relèvent pas de la juridiction française, on va dire.
Alors ça, c'est justement tout l'enjeu d'avoir des règles qui vont du coup être négociées au niveau européen, international, et donc d'avoir une espèce de ce qu'on appelle le level playing field qui soit un petit peu harmonisé, mais j'aurais voulu réagir justement sur ce que disait Sébastien Jean, parce que cet aveu de faiblesse, hein, je partagerais assez quand même ce ce constat. On le retrouve cette semaine quand Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, refait un discours. Alors, c'est intéressant parce que ce discours, il a été jugé comme sans concession, notamment, il a dit qu'il y aurait les entreprises qui seraient du bon côté de l'histoire et celles du mauvais côté de l'histoire en matière de changement climatique. C'était aussi là une réponse directe à l'accession aussi de Trump au pouvoir. Mais dans ce discours qui se veut très vigoureux et défendre justement cet agenda du développement et du développement durable, notamment de l'ONU, à aucun moment il ne remet en cause le cadre du forum de Davos, à aucun moment il ne remet en cause la légitimité de cette instance devant laquelle il s'exprime. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a vraiment cette continuation de l'acceptation d'un rapport de force qui est qui quand même éclipse totalement l'institution dont il est censé être le porte-parole et le représentant.
Alors justement, je vous propose d'écouter, on va dire, Antonio Guterres dans le texte, puisque effectivement il s'exprimait il y a deux jours, mercredi dernier, au forum de Davos.
Un nombre important d'institutions financières et industrielles font marche arrière sur les engagements climatiques. Et ici, à Davos, je veux dire haut et fort que c'est court-termiste et paradoxalement, c'est aussi égoïste qu'autodestructeur. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire, du mauvais côté de la science et du mauvais côté des consommateurs qui attendent plus de soutenabilité. Ces avertissements s'adressent également aux entreprises productrices d'énergie fossile qui font de la publicité, du lobbying et aux compagnies de relations publiques qui les aident à faire du greenwashing. Les mentalités avancent et nous ne pouvons pas nous permettre de reculer.
Olivier Petitjean, on a l'impression d'une boucle, là encore, de l'histoire qui se répète. Alors non seulement vis-à-vis de 1999, mais plus largement, là on sent que Antonio Guterres fait appel à des mentalités qui changent, à être du mauvais côté de l'histoire, et cette idée que potentiellement, peut-être, la critique, et notamment de la part de la société civile, va exercer une forme de contrainte comme elle l'a fait dans les années 70. Est-ce qu'on peut y croire, et notamment face à l'urgence climatique?
Alors effectivement, clairement, on l'entend, il y a... Moi, je suis d'accord avec le constat qu'il y a un aveu de faiblesse et ne revendiquer comme force motrice que l'indignation de l'opinion publique ou l'évolution des mentalités,
c'est pas sûr que ça fasse bouger les lignes.
C'est pas sûr que voilà, ça pèse beaucoup par rapport aux considérations des dirigeants des multinationales. Donc effectivement, bon, comme vous l'avez dit, il y a un côté cyclique. Donc dans notre livre, on parle de l'histoire des multinationales et on voit qu'il y a des effets cycliques où il y a des moments où on est plus dans la libéralisation, dans le relâchement des règles, dans le discrétionnaire, et des moments où ça avance. Et donc là, clairement, à cause pour beaucoup de raisons, on est dans un moment plutôt de recul, ou avec des fortes pressions pour le recul. Donc pour l'instant, voilà, on voit mal comment ça pourrait donner des effets concrets.
Sébastien Jean.
Oui, je trouve ça intéressant, cet appel finalement aux citoyens ou aux consommateurs pour essayer de contrer l'air du temps. Mais finalement, un peu problématique dans un contexte où Trump, en l'occurrence, il s'agit de lui, il a été élu par une majorité d'Américains. Donc finalement, c'est une façon de se mettre face à ces contradictions, c'est-à-dire que l'élection de Trump, deux fois... En grande partie, c'est aussi une réaction contre la mondialisation telle qu'elle s'est organisée. Donc, je pense qu'il y a une sorte de sophisme à essayer d'invoquer les vertus de la mondialisation telle qu'elle a pu être organisée dans le passé pour démentir ce résultat qui est un résultat électoral. Et donc, il y a une remise en cause un peu plus profonde qui serait nécessaire pour aller au fond des choses.
Marie-Louis.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va assister maintenant à un véritable crash test ou en tout cas une mise à l'épreuve des engagements qui ont été pris par ces grandes multinationales. Moi, je pense aussi beaucoup à une entreprise comme Unilever, par exemple, qui s'est vraiment présentée, qui a pris des engagements très forts sur le plan climatique avec un Paul Polman, qui était son ancien CEO, qui est devenu quasiment un ambassadeur de l'ONU. En fait, quand on l'écoute, on a l'impression d'entendre un secrétaire général des Nations Unies qui plaide pour les objectifs du développement durable. Donc là, on a vraiment un moment clé où, dans toutes ces normes qui ont été faites, qui ne sont pas d'application contraignante et qui sont volontaires, eh bien, on va pouvoir un petit peu tester la fiabilité de ces engagements et effectivement avoir une lecture peut-être plus fine entre les multinationales responsables et les autres.
Oui, il reste à savoir comment on va le tester et potentiellement quel risque de sanctions en face. Bon, il reste encore à fourbir certaines armes, on va dire, qu'elles soient diplomatiques ou économiques, mais nous verrons cela très probablement dans une autre émission puisque celle-ci se termine. Merci beaucoup à tous les trois, Sébastien Jean, Olivier Petitjean et Marie-Louis, d'avoir participé à cette émission.